Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
7h18, après la chute d'Afrine et de la Ghouta orientale vers la fin des zones rebelles. Bonjour Dorothée Schmitt, vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Que change la prise d'Afrine par les Turcs ?
Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Afrine, c'était un nouveau front qui s'était ouvert en Syrie. Donc en fait, alors qu'on avait le sentiment qu'on était entré dans une phase de décompensation militaire, que finalement la situation était en train de se tasser sur le terrain, on a des nouvelles perspectives de combat qui s'est ouverte en Syrie, sachant que la Turquie aujourd'hui affirme qu'elle veut pousser ses troupes plus à l'est pour continuer à nettoyer entre guillemets la frontière des YPG, des combattants kurdes qu'elle considère être des cousins du PKK.
Et alors où pourraient-ils aller ces combattants du YPG ?
Ils vont de toute façon aller, enfin ceux qui étaient à Afrin et qui pourront partir, effectivement, vont aller renforcer toutes ces cantons kurdes qui avaient été installés plus à l'est, le long de la frontière turco-syrienne. La question aussi est de savoir si tout simplement ils vont pas venir renforcer les troupes du PKK en Turquie même, voire se réfugier en Irak encore plus à l'est.
Et cette fois-ci du côté de la Ghouta orientale, où en est la situation et que veut faire Bachar al-Assad ?
La Ghouta est en train de tomber pratiquement, ce qui est un peu effrayant, c'est qu'on se rend compte que la stratégie russe qui consistait à mettre en place ce qu'on avait appelé des zones de désescalade militaire, il y avait quatre zones qui avaient été définies en Syrie, qui étaient finalement des espèces de zones de cessez-le-feu, ça a permis ensuite aux forces loyalistes au régime appuyées par les Russes de finalement reprendre la main militairement, et aujourd'hui progressivement ces zones sont en train de tomber aux mains de l'armée de Bachar al-Assad. Et effectivement, la Ghouta est sur le point de tomber avec un désastre humanitaire en préparation, qui est déjà, on le sait, puisqu'on a beaucoup vu ces photos de civils bombardés, massacrés, qui est déjà effectif. Et la question aussi de l'éventuelle évacuation des combattants de la Ghouta qui veulent se replier sur d'autres zones où on a encore des rebelles qui combattent l'armée de Bachar al-Assad.
Mais alors justement, cela signifie-t-il, Dorothée Schmitt, que Bachar al-Assad, aujourd'hui, à ce stade, a remporter la guerre, ou bien est-ce que le front va se déplacer avec des rebelles qui iraient ailleurs qu'à la Ghouta ?
Alors disons que Bachar al-Assad a effectivement beaucoup progressé territorialement en Syrie et que pratiquement tout l'Ouest maintenant est tombé entre ses mains. Il est probable que le prochain front sera plus au sud, du côté de Deraa, qui est la ville où avait commencé en fait le printemps syrien, qui était une des zones de désescalade aussi. Et on a déjà des débuts d'opérations de l'armée loyaliste qui se dessinent. Est-ce que ça signifie pour autant que la guerre est finie en Syrie ? Non. Que la Syrie est stabilisée ? Non. Et qu'on a une solution politique ? Non.
Alors, d'autant moins stabilisée, d'ailleurs, que la question d'Afrin, cette fois-ci, je reviens à ce que peut faire la Turquie, donc les Kurdes qui sont combattus, ont combattu contre Daesh. Du coup, on se demande ce que vont faire les États-Unis et plus largement les Occidentaux qui les soutenaient dans la lutte contre l'État islamique.
Effectivement, on sait que la Syrie, c'est à la fois une guerre civile, une forme de guerre civile, mais une guerre civile où sont intervenus beaucoup de combattants étrangers qui sont venus renforcer un camp ou l'autre, le camp pro-Bachar ou le camp anti-Bachar, et beaucoup d'intérêts de puissances extérieures, qu'elles soient régionales, c'est le cas de la Turquie, c'est le cas de l'Iran bien entendu, mais aussi d'un certain nombre de puissances arabes, de pays du Golfe qui ont soutenu des groupes combattants, et puis au-delà, bien sûr, les grandes puissances internationales que sont la Russie, les États-Unis ou éventuellement les Européens dont on ne parle pas beaucoup. La France n'a pas une politique extrêmement cohérente en Syrie, mais elle est quand même aussi présente dans la coalition anti-Daesh et elle fait entendre sa voix néanmoins sur ce qui se passe en Syrie.
Mais alors, est-ce qu'on peut imaginer par exemple une alliance entre les Kurdes et les Américains, puisque je rappelle que les Kurdes ont été un instrument essentiel dans la lutte contre Daesh, un front entre les Kurdes et les Américains contre les Turcs ?
Je crois que ça, c'est très très difficile à imaginer. Il faut voir qu'évidemment, les Kurdes ont été un instrument militaire qui a beaucoup appuyé la coalition anti-Daesh pour se battre contre Daesh, donc à l'est du pays. Je rappelle que les opérations ne sont pas finies et que le front ouvert par les Kurdes à Afrin est en train d'ailleurs d'affaiblir la coalition anti-Daesh. Le problème, c'est que la Turquie, c'est un membre de l'OTAN très important pour les États-Unis parce que c'est le pays qui, en principe, devrait être le bras armé de l'OTAN au Moyen-Orient. Donc si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des objectifs à moyen terme, ça veut dire que l'alliance éclate.
Et au-delà de ça, on voit que les trois pays qui aujourd'hui sont en train de s'atteler au sort de la Syrie, j'allais dire hélas, la Turquie, l'Iran et la Russie ne sont pas des pays arabes. Ce sont ces trois pays-là qui aujourd'hui se disputent les zones d'influence avec, selon vous, quelle perspective à l'avenir ?
Effectivement, on a deux processus de paix parallèles sur la Syrie. On a des négociations à Genève qui sont, qu'on pourrait appeler les négociations occidentales, qui échouent. Et on a les Russes qui ont mis en place un système...
Vous dites occidental, on a quasiment l'impression que ça veut dire...
C'est la communauté internationale,
ça, c'est
mais c'est celle où participent les Américains, les Européens, qui apparemment n'ont pas la main en Syrie, puisque finalement ils sont intervenus contre Daesh, mais n'avaient pas l'intention de s'engager vraiment dans le combat pro ou anti-Bachar.
Donc les pays qui ont la main sont...
Sont effectivement, comme vous le disiez, la Russie, la Turquie et l'Iran. À terme, une question très importante sera celle de l'influence effective de l'Iran en Syrie. Et on voit très bien que l'administration Trump aujourd'hui est en train de donner des signaux de containment de l'Iran qui nous amène à nous interroger bien sûr sur ce que sera la stratégie américaine en Syrie à l'avenir.
Mais alors, est-ce que vous pensez que ça peut scinder cette alliance des trois pays en deux, c'est-à-dire d'un côté l'Iran, de l'autre par exemple la Turquie, la Russie ?
La Turquie est dans un jeu de bascule qui est très compliqué parce qu'en réalité elle s'opposait frontalement à la Russie jusqu'à cette tentative de coup d'État raté en 2016, qui a brutalement rapproché Poutine et Erdogan. Jusqu'à présent, la Turquie a donné des signes d'incertitude, d'instabilité dans sa politique syrienne, puisque c'était le premier ennemi de Bachar al-Assad, et que maintenant c'est un allié de la Russie. Donc si aujourd'hui elle s'affronte aux Kurdes, c'est justement pour montrer qu'elle a ses propres objectifs en Syrie.
En tout cas, rien ne prouve que ce soit la paix qui est à l'horizon aujourd'hui en Syrie, et la guerre en Syrie... En conclusion, reste une sorte de trou noir qui aspire tous les pays, qui aspirent en quelque sorte vers la guerre.
Oui, je vous rappelle que c'est quand même 400 000 morts, des combats qui sont constants, quotidiens, deux tiers de la population qui sont déplacés ou réfugiés, avec des conséquences très importantes en termes de fragilisation des sociétés qui accueillent les réfugiés dans les pays voisins, que ce soit au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en Irak. Et en Jordanie aujourd'hui, on a une montée en puissance de Daesh, que justement on était en train de combattre plus à l'est en Syrie, et qui est en train de se replacer territorialement dans d'autres endroits qui sont des endroits de faiblesse en Syrie.
Merci beaucoup Dorothée Schmitt, 7h25 sur France Culture.